Nous lisons ensemble le premier chapitre du livre Lévitique. Lévitique 1. Et l'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation, disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, « Quand un homme d'entre vous présentera une offrande à l'Éternel, vous présenterez votre offrande de bétail, du gros ou du menu bétail. » Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il la présentera un mâle sans défaut, et la présentera à l'entrée de la tente d'assignation pour être agréé devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête de l'holocauste, et sera agréé pour lui pour faire propitiation pour lui. Et il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, présenteront le sang et feront aspersion du sang tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et il écorchera l'holocauste et le coupera en morceaux. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, arrangeront les morceaux, la tête et la graisse, sur le bois qui est sur le feu qui est sur l'autel. Elle lavera avec de l'eau l'intérieur et les jambes, et le sacrificateur fera fumer le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et si son offrande pour l'holocauste est de menu bétail, d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, elle la présentera un mâle sans défaut. Elle l'égorgera à côté de l'autel vers le nord, devant l'Éternel. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, feront aspersion du sang sur l'autel tout autour. Elle le coupera en morceaux avec sa tête et sa graisse, et le sacrificateur les arrangera sur le bois qui est sur le feu qui est sur l'autel. Elle lavera avec de l'eau l'intérieur et les jambes. Et le sacrificateur présentera le tout et le fera fumer sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, elle présentera son offrande de tourterelles ou des jeunes pigeons. Et le sacrificateur l'apportera à l'autel et lui détachera la tête avec l'ongle et la fera fumer sur l'autel. Et l'on épeindra le sang contre la paroi de l'autel. Elle ôtera son gésier avec son ordure et les jettera à côté de l'autel vers l'Orient, au lieu où sont les cendres. Elle feindra l'oiseau entre les ailes et ne le divisera pas. Et le sacrificateur le fera fumer sur l'autel, sur le bois qui est sur le feu. C'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Jusque-là, la parole de Dieu au début. Le livre duquel nous avons lu le premier chapitre commence par un mot « et ». Personne de nous commencera un livre par ce mot « et ». C'est pas du tout normal de commencer un livre par ce mot « et ». Et en fait, la Bible, le tout, ne commence pas comme cela. Dans Genèse 1, Dieu dit au début « au commencement ». Mais le deuxième livre, ça veut dire l'Exode, le troisième livre, Lévitique, le quatrième livre, Nombre, Les trois commencent par ce petit mot « et » qui nous montre que Dieu continue quelque chose qu'il a déjà commencé. Ça veut dire, sans comprendre le sens de l'Exode, on ne peut pas comprendre Lévitique. Sans comprendre Genèse, sans lire Genèse, on ne peut pas comprendre vraiment l'Exode. Ça veut dire, il faut savoir un peu sur l'histoire du peuple de Dieu qui est mentionné dans les livres avant. Je commence courtement par l'Exode. Dans Genèse, on a des familles, les 12 familles des fils de Jacob, et sont envoyés, sont allés en Égypte. Et le début du livre de l'Exode nous montre que ce ne sont plus juste des familles, mais que c'est maintenant un peuple. Il est très remarquable que celui qui a eu le pouvoir en Égypte, le Pharaon, qui a fait esclave de ce peuple d'Israël, des Israélites, a eu en même temps peur d'eux. C'est où nous trouvons la première fois qu'il parle de ce peuple d'Israël. En fait, comme c'est un type de notre temps, c'est exactement la même chose que nous avons aujourd'hui avec celui duquel le Pharaon est le type. Et il y a aussi aujourd'hui quelqu'un qui a le pouvoir sur pas seulement l'Égypte, mais sur tout le monde. C'est Satan. Satan a le pouvoir sur les hommes. Nous sommes, comme hommes naturels, tous des esclaves de Satan. Mais en même temps, il a une grande peur devant ces hommes. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'il va perdre ces hommes. Et en fait, il nous a perdus. Parce que nous ne sommes plus à lui. Nous ne sommes plus des esclaves comme croyants de Satan. Mais nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça veut dire, avec justice, il a peur. Certainement, il ne faut jamais penser que nous sommes plus forts que Satan. Bien sûr que non. Mais avec Christ, et Christ en nous, nous sommes plus forts que lui. Ça veut dire, notre force dépend totalement de notre Seigneur et pratiquement de notre marche avec lui. Bon, le peuple d'Israël était en Égypte et Dieu a aidé, il a donné le salut pour le peuple d'Israël pour être sauvé de ce pouvoir du Pharaon. Dieu a utilisé pour cela deux moyens. C'était la Pâque, cet agneau, et deuxièmement, la traversée de cette mer rouge, de la mer rouge. Avec la Pâque, c'est l'apôtre Paul qui nous explique, 1 Corinthiens 5, verset 7, que la Pâque parle directement de la personne de notre Seigneur. 1 Corinthiens 5, verset 7, deuxième partie. « Car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. » Ça veut dire la Pâque parle de la personne de notre Seigneur. Et comme la Pâque, ça veut dire l'agneau, a dû être mis à mort, c'est un symbole du Seigneur qui a laissé sa vie à notre place. Je crois qu'il n'y a pas un type plus beau et plus exact que la Pâque pour le salut. Parce qu'en Égypte, il y avait un choix à faire. Ça veut dire pour les Israélites, ils ont pu choisir. Un côté, ils ont pu sacrifier cette Pâque mise à mort pour prendre le sang, pour le mettre à leur porte. Et par sept actes par le sang, elles étaient sauvées, elles étaient épargnées du jugement de ce pharaon, de Dieu, qui a promis, qui a dit en avance qu'il va marcher en Égypte pour tuer tous les premiers-nés dans tous les peuples qui existaient là, les Égyptiens comme le peuple d'Israël. Et il y avait l'agneau qui était mort ou l'Israélite premier-né comme Égyptien qui était mort. Ça veut dire, il était certain qu'il y a une personne ou quelqu'un qui a dû mourir, soit l'agneau, soit le premier-né. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Soit Christ était mort pour moi, je lui accepte comme mon sauveur qui était mort pour moi, c'est pour ainsi dire l'application de ce sang, ou c'est moi qui va endurer éternellement la mort. Une de ces deux personnes doit être mort. Le Seigneur pour moi ou moi? Moi-même. Mais le peuple d'Israël n'était pas sauvé d'Égypte déjà, par cela, il fallait aussi se traverser de la mer Rouge. C'est un autre type de la mort de notre Seigneur, mais ce n'est pas la mort de notre Seigneur à notre place, comme l'agneau était mis à mort à la place de l'Israélite, mais la traversée, c'était Moïse qui était devant les Israélites, et ils ont suivi Moïse. Moïse qui est un type de notre Seigneur, et lui était mort, et nous sommes morts avec lui. Comme Moïse a traversé, et l'eau était comme un mur à gauche et à droite, et si on a regardé ce mer Rouge, on a vu personne. Comme s'ils étaient dans la mer. Et c'est exactement, la mort était la mort de notre Seigneur. Mais comme Romains 6 nous montre, nous sommes morts avec le Seigneur. Sa mort est notre mort. Et par cela, on est sauvés de ce monde. Pourquoi? Parce qu'un mort n'appartient plus à la scène ici. Nous sommes morts et par la mort, nous n'appartiennent plus à cette scène, à ce monde. Nous sommes morts avec Christ. Et maintenant, nous avons une nouvelle vie qui est dans l'autre côté de la mort, ça veut dire de l'autre côté de la mer Rouge. Et par cela, le peuple d'Israël était dans le désert. Pour nous, le monde change le caractère. Avant notre conversion, le monde est comme Égypte. Nous sommes les esclaves de Satan, de ce monde et aussi du péché. Mais maintenant, le monde, parce que le Seigneur était mort à notre place et nous étions morts ou nous sommes morts avec lui, nous sommes dans le désert. Le monde n'est plus Égypte, mais le désert. Et le désert veut dire il n'y a rien du tout dans ce monde pour nous nourrir et pour nous donner la force, la joie de l'eau. Alors nous sommes maintenant, pour ainsi dire, comme les Israélites dans le désert, dans ce monde qui n'est pas capable de nous nourrir, de nous donner la joie. C'est une leçon en elle-même. Je n'ai pas le temps maintenant de parler sur ce sujet, mais la question, c'est vraiment juste. Est-ce que le monde est vraiment un désert pour nous? Est-ce que nous sommes conscients que ce monde n'est pas capable de nous nourrir, de donner à notre nouvelle vie quelque chose qui est utile, qui est pour notre profit, qui est pour notre encouragement? Le monde n'a rien du tout pour nous. Il faut le dire à soi-même chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Mais comme Dieu l'a laissé maintenant ce peuple dans le désert, il a donné premièrement la loi, pour nous la parole de Dieu, nous avons quelque chose pour savoir les pensées de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et après, il a fait cet ordre de bâtir la tente d'assignation. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple. C'est exactement ce que Dieu a voulu faire avec nous. C'est clair que Dieu est capable seulement de vivre, d'habiter dans un peuple qui connaît la rédemption. Un peuple qui connaît la mort du Seigneur pour eux. Dieu n'a jamais pu habiter dans un peuple naturel, un peuple qui est caractérisé par le péché. Non, il fallait un peuple qui connaît la rédemption. Et Dieu a voulu habiter en milieu d'eux par cette tente d'assignation. Et c'est la fin de ce livre Exode que Dieu a pu habiter au milieu de ce peuple. Mais Dieu n'était pas content de juste habiter au milieu d'eux. Il voulait quelque chose de plus. Et c'est le sujet de ce livre Lévitique. Il voulait avoir communion avec son peuple. Et c'est le grand sujet de Lévitique que Dieu a communion avec son peuple. Je n'ai pas le temps pour expliquer toutes les étapes, tous les détails qui sont mentionnés, qui sont présentés dans Lévitique, juste deux, trois. Il commence avec les sacrifices pour nous expliquer, pour nous enseigner le sujet, le contenu de cette communion. Et c'est Christ et son œuvre. Ça veut dire Dieu veut avoir communion avec son peuple, avec nous les croyants, sur la personne de notre Seigneur, sur l'œuvre de notre Seigneur. Et il faut se poser la question, c'est le chapitre 1 à 7, il faut poser la question, est-ce que pratiquement c'est juste pour nous? Est-ce que nous avons vraiment communion avec Dieu sur la personne de notre Seigneur et sur son œuvre? Comment est-ce qu'on peut le savoir si c'est vrai pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir communion avec Dieu? Ça veut dire j'écoute à la voix de Dieu, je parle à Dieu et j'ai fait l'expérience de ma vie avec Dieu. Ce sont les trois côtés. Alors, quand Dieu parle, et pas par sa parole, est-ce que pour moi, les choses les mieux, les choses les plus appréciées dans la Bible, c'est la personne de notre Seigneur et son œuvre? Si je parle avec Dieu, ma prière, quels sont les contenus, quels sont des choses que je mentionne dans mes prières à Dieu? Il est tout à fait vrai que je peux parler avec Dieu mon Père, avec le Seigneur, sur toutes ces choses qui sont dans mon cœur. Je peux parler sur ma santé, sur la santé de ma famille, je peux parler sur mon travail, sur mes soucis, sur n'importe quoi, sur mes vacances, sur tout. Mais est-ce que la personne est l'œuvre de notre Seigneur, est le vrai centre de ma communion avec le Seigneur, avec Dieu, mon Père? Les sacrifices, particulièrement le sacrifice de prospérité, chapitre 3, parle de la communion, pas seulement avec Dieu, mais aussi parmi nous. Et les mêmes questions se posent. Quels sont les sujets vrais de notre communion ensemble? Encore une fois, on peut parler sur tout. Il n'y a rien du tout sur lequel on ne peut pas parler. Mais est-ce que nous parlons aussi sur notre Seigneur et son œuvre? Pour le dire un peu plus général, est-ce que nous parlons sur les choses célestes, sur les choses spirituelles? Ou est-ce que nous nous limitons à les choses terrestres dans nos conversations? Le contenu de notre communion, c'est Christ et son œuvre. Chapitres 8 et 9 nous montrent avec qui Dieu a communion. C'est le dévouement des sacrificateurs et ça nous montre que la communion avec Dieu, c'est de ces personnes qui sont des sacrificateurs. Maintenant, nous savons certainement que le Nouveau Testament, 1 Pierre 2, à partir du verset 5, nous montre que nous sommes, tous les croyants sont des sacrificateurs. Mais c'est la position de chacun de nous. L'Ancien Testament ne nous parle pas normalement de notre position, mais de notre pratique et de notre appréciation de ce que Dieu nous a donné comme position. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, on trouve que c'est juste une famille qui était sacrificateur. Parce que, pratiquement, ce n'est pas tous les croyants qui ont la conscience et la pratique d'être sacrificateurs devant Dieu. Les sacrificateurs étaient ceux qui ont apporté les sacrifices, qui ont travaillé pour les sacrifices, pour l'œuvre, la personne de notre Seigneur. C'étaient ceux qui ont prié pour le peuple à Dieu. C'étaient ceux qui ont enseigné Lévitique 10, le peuple de Dieu, sur des choses de la Bible. Alors, est-ce que je suis pratiquement un sacrificateur? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui se tient devant Dieu pour le peuple de Dieu avec cette activité de s'occuper de l'œuvre de Christ et de sa personne? Est-ce que nous sommes ceux qui enseignent dans le privé ou dans le public, qui parlent sur la personne et l'œuvre de notre Seigneur, qui enseignent, qui parlent de la parole en fait? Ce sont des sacrificateurs et seulement eux sont ceux qui ont vraiment, pratiquement aujourd'hui déjà, communion. Chapitre 10 à 15 nous montre qu'il y a des obstacles dans nos vies pour avoir communion. Dans tous ces chapitres, on voit des types du péché. Et le péché est toujours un obstacle pour pratiquer la communion avec Dieu. Et combien des péchés sont introduits dans nos vies, par notre responsabilité certainement, parce qu'on n'était pas prudent, on n'a pas veillé. Alors c'est à nous de se séparer pratiquement de ces péchés. Chapitre 16 nous montre le fondement de la communion. C'est le jour de propitiation. L'œuvre de Christ comme propitiation, c'est la base de notre communion. Etc. On peut continuer. Alors, dans Lévitique 1 à 7, nous trouvons le contenu. C'est Christ et son œuvre. Maintenant, faut se limiter. Pourquoi est-ce que je peux dire les sacrifices parlent de la personne et de l'œuvre de Christ? Peut-être plusieurs parmi nous ont entendu cela toujours, mais il faut le prouver certainement que les sacrifices sont un type de la personne et de l'œuvre de Christ. Et je lis pour cela Éphèse 5, verset 2. Probablement, vous lisez de temps en temps aussi ce verset dans le culte où l'apôtre dit, Éphésiens 5, verset 2, deuxième partie, « Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande. » C'est l'offrande de gâteau, chapitre Lévitique 2. « Et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. » Alors, l'apôtre dit, ce que nous trouvons dans Lévitique 1, 2, 3, ça nous montre ce que le Seigneur a fait, que lui s'est livré lui-même en parfum de bonne odeur pour Dieu et comme sacrifice aussi pour nous, comme son œuvre était pour nous. Alors ça montre clairement que Lévitique 1 à 7 sont un type de l'œuvre de Christ. On peut voir deux aspects de cela. Premièrement, on peut dire Dieu a donné son Fils, a sacrifié son Fils. C'est Romains 8, verset 31, sauf erreur. Que Dieu a donné, a sacrifié son Fils, n'a pas épargné son Fils. Ça veut dire le sacrificateur, non, celui qui est venu avec ce sacrifice, et le sacrificateur, c'est Dieu le Père. Le sacrifice, c'est Christ. Il y a un deuxième aspect, c'est Christ qui s'est livré lui-même par l'Esprit éternel, Hébreux 9. Ça nous montre, avec cette perspective, que le Seigneur est celui qui est venu avec le sacrifice, que le Seigneur est celui qui est sacrificateur, que lui est le sacrifice, et en fait, quatrièmement, il est même l'autel. Ça veut dire que le Christ est le tout de cela. Et il faut penser un peu à cela, que le Seigneur, comme avec le Père, de donner son Fils. Quelle grâce, quel don inexprimable, quel pas que Dieu le Père a pris pour donner pour les pécheurs, pour nous, son Fils, mais aussi pour le Seigneur. Quelle souffrance était les siens quand il s'est donné lui-même. C'est un deuxième aspect. Et un troisième que nous trouvons dans Hébreux 13. Hébreux 13, probablement aussi lu de temps en temps le dimanche matin, où peut-être Paul aussi dit dans le verset 15, Hébreux 13, verset 15, « Offrons donc par lui, par le Seigneur, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Ici, nous trouvons que nous sommes ceux qui viennent avec ces sacrifices et que nous sommes aussi les sacrificateurs qui font fumer ce sacrifice dans un sens spirituel. Ce n'est pas du tout le sens qui est enseigné dans l'Église catholique, qu'il y a toujours de nouveau le sacrifice du Seigneur qui est donné, qui est fait. Non, c'est spirituellement que nous prenons de ce que le Seigneur a fait sur la croix et nous parlons de cela à Dieu notre Père comme au Seigneur. C'est l'adoration. Quand nous bénissons Dieu le Père par le nom de notre Seigneur. Je dis en parenthèse, c'est la signification dans le premier sens de Lévitique. J'espère que j'en ai encore le temps pour l'expliquer dans Lévitique 1. Mais il y a une quatrième perspective sur les sacrifices. C'est Hébreux 13, verset 16. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Et sacrifice ici veut dire vraiment des sacrifices qui étaient mis à mort, les animaux. Ça veut dire Dieu prend aussi ce que nous donnons avec le culte, matériellement, et il prend cela comme sacrifice. Et l'exhortation pour nous, la question pour nous, est-ce que nous donnons avec ce libre cœur, et pour ainsi dire les libres mains, comme le Seigneur s'est livré lui-même? La mesure pour nous, c'est l'Holocauste qui montre que le Seigneur s'est livré totalement, librement à Dieu.
Et ça doit être la mesure pour nos dons matériels que nous donnons avec le culte, par exemple. Ça veut dire que l'Holocauste est un symbole, est un type aussi de ces dons matériels que nous donnons. Et il y a un cinquième perspective, Romains 12, où l'apôtre Paul dit sur nous, Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. » Ça veut dire notre vie, notre corps, notre personne doit être comme un sacrifice pour Dieu, pour le Seigneur. Pour nous, ce n'est pas un sacrifice mort, comme dans l'Ancien Testament, mais un sacrifice vivant. Ça doit être notre attitude, nos pensées dans notre vie, comme nous sommes vivants encore ici sur la terre. Est-ce que l'Holocauste est vraiment la mesure pour mes pensées, pour mon attitude, vivre comme une odeur agréable pour Dieu? Est-ce que je donne tout de mon corps, de ma vie, pour le Seigneur, pour Dieu, pour les autres? C'est le type de ces sacrifices dans l'Ancien Testament. Alors, les trois premiers sacrifices dans Lévitique étaient les sacrifices librement donnés. Il y avait aussi des sacrifices pour le péché. Et ce n'était pas une question, est-ce que tu veux donner ou pas? C'était obligatoire. Mais avec l'Holocauste et les deux autres sacrifices, chapitre 2 et 3, Dieu nous montre qu'il attend un cœur qui veut donner. C'est dans le verset 1er, comme nous avons lu, quand un homme d'entre vous présentera une offrande à l'Éternel. On peut traduire aussi « veut présenter une offrande à Dieu ». Ça veut dire « Dieu attend s'il y a dans mon cœur, dans ton cœur, quelque chose pour lui apporter quelque chose. » Une adoration, de remercier Dieu notre Père pour ce qu'il a donné à nous, la personne de notre Seigneur. Et il est dit, parle au fils d'Israël quand un homme. Ça veut dire, il parle en fait d'une adoration collective en Israël, parce qu'on a dû présenter ce sacrifice à l'autel qui était en relation avec la tente d'assignation. C'est collectif. Mais la question reste toujours personnelle. Quand un homme, ce n'est pas comme quand le peuple d'Israël, quand un homme. Ça veut dire, ça reste une question personnelle. Est-ce que je veux apporter quelque chose? Et Lévitique 1 nous parle de l'adoration collective. En relation avec, comme j'ai dit, l'autel, avec cette tente. Ça veut dire, par exemple, comme hier, quand nous sommes réunis ensemble, l'adoration collective dépend s'il y a ce cœur qui veut librement donner au Seigneur, à Dieu notre Père, quelque chose en adoration. Et ça nous montre que nous avons besoin d'une préparation personnelle pour le culte. Je ne dis pas du tout que ce que m'a occupé pendant la semaine, par exemple, je dois apporter le dimanche. Parce que si chacun le fait, ça c'est plus ou moins un chaos. Mais je dis, la préparation, c'est plutôt une préparation de cœur, de s'occuper de la personne du Seigneur, et le dimanche, par la direction de l'Esprit-Saint, et peut toucher un aspect ou d'autres qui était dans mon cœur, peut-être dans la semaine, pour que j'exprime cette pensée avec d'autres dans cette réunion. Mais le point qui est important, je trouve, est l'adoration collective peut fonctionner seulement si chacun de nous, vous comme sœur, même si vous n'êtes pas capable de vous exprimer ouvertement, mais ce n'est pas la question. Si nous tous sommes préparés, si personne ne s'occupe, il n'y a rien. Certainement, on peut formuler encore des prières, mais ce n'est pas ce que Dieu peut accepter si c'est juste une formule. Et si ce n'est plus vraiment quelque chose qui est fraîche, qui est de nouveau dans mon cœur. Maintenant, Dieu cherche des cœurs qui veulent librement donner quelque chose. Mais si quelqu'un veut donner, Dieu dit, quand un homme d'entre vous présentera une offrande à l'Éternel, vous présenterez votre offrande de bétail comme je fais la description maintenant. Ça veut dire, s'il y a un cœur libre à donner quelque chose, ce n'est pas à moi de décider quoi faire, comment apporter ce sacrifice. Mais Dieu nous dit clairement par lesquels moyens, de quelle façon on peut apporter cela. Ça veut dire, Dieu cherche des cœurs, mais s'il y a un cœur, il doit être obéissant à ce que Dieu dit dans sa parole. C'est exactement la même chose que le Seigneur nous enseigne sur l'adoration. Jean 4, le Seigneur a parlé avec cette femme à Samarie, et il dit dans le verset 23, deuxième partie, « Car aussi le Père cherche de tels qu'il adore. » C'est cette liberté. Il cherche des cœurs qui sont ouverts pour lui donner quelque chose, apporter quelque chose. Et si quelqu'un veut apporter quelque chose, verset 24, Dieu est l'Esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On n'est pas libre comment j'apporte. Ça doit être en esprit et en vérité. En esprit veut dire spirituel. Ce n'est plus matériel. Je ne peux pas venir dimanche prochain avec mon animal ici pour apporter quelque chose. Non, ça doit être en esprit spirituel. Et en vérité, d'après la révélation qui est donnée dans le Nouveau Testament par les apôtres. Ça veut dire la liberté ne veut pas dire je peux apporter comme je veux, mais toujours en accord avec ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Maintenant, deux, trois courts pensées sur les détails que nous trouvons ici. C'était un mal, verset 3, sans défaut. Le Seigneur, 1 Pierre 1, verset 18-19, était sans défaut et sans tache, encore plus que cet animal. Pour les animaux, j'en suis sûr, si l'ordre était sans tâche, sans défaut, probablement il n'y avait aucun animal qui était capable de répondre à ces ordres, ces mesures. Sans défaut, on a pu voir extérieurement, mais s'il n'y a pas de tâche, ça n'existe pas probablement. Mais pour le Seigneur, c'est encore plus. Ce n'est pas seulement qu'il n'était pas péché. Il n'a pas péché, 1 Pierre 2, il n'a pas connu le péché, 2 Corinthiens 5. Le péché n'était pas en lui, 1 Jean 3. Mais pour lui, il était beaucoup plus. Il n'était pas seulement pas négatif, mais le contraire. Il était toujours pour la gloire, pour la joie de son Père et Dieu et Père. Ça veut dire qu'il n'y avait rien du tout ce qu'on a pu voir dans sa vie, dans ses mots, dans ses paroles, dans ses actions, dans sa marche, dans son service, qui a eu un certain défaut. Elle était tout absolument parfait. Et avec les sacrifices, c'était dans le feu. Ça veut dire c'est prouvé, c'est montré dans les souffrances de notre Seigneur, et avec les sacrifices, veut dire sur la croix. Pas seulement dans les souffrances extérieures et intérieures pendant sa vie, pendant son service, mais dans les souffrances extrêmes. Comme le Seigneur dit dans Luc 22, quand il introduit la scène, il dit dans le verset 15, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. » C'est étonnant, le Seigneur a souffert toute sa vie. Pourquoi est-ce qu'il dit « avant que je souffre » ? Parce que les souffrances de la croix sont une mesure d'une manière totalement différente que toutes les souffrances qu'il a endurées avant. Elles ont une totalement différente catégorie. Et même dans cette souffrance, le Seigneur a montré pour chacun qui a voulu avoir des yeux qu'il n'y avait aucun tache, aucun défaut. Il est dit dans le verset 6, il faut écorcher l'holocauste et le couper en morceaux. Verset 8, la tête, la graisse. Verset 9, l'intérieur et les jambes. Ça veut dire tous les détails, chaque aspect de sa vie, ses motifs, ses pensées, ses émotions, ses actions, sa marche, tout était mis, pour ainsi dire, sur l'autel. Et Dieu a apprécié chaque partie en elle-même, pas seulement le tout, mais chaque partie, si on peut dire cela, de la personne et de l'œuvre de Christ était mise sur l'autel. Était mis sur le feu pour montrer que chaque était parfait. Sa marche, ses pensées, ses émotions, ses motifs. Il n'y avait rien du tout qui n'était pas pour l'odeur, pour la gloire de son Père, Dieu et Père. Et maintenant, nous avons lu dans le verset 9, « Le sacrificateur fera fumer le tout sur l'autel. » Ça nous montre, et maintenant je reviens, Lévitique 1 parle de notre adoration. Dieu nous attend de rester un certain temps sur les jambes, la marche, sur la tête, les pensées, sur les entrailles ou, comme il est dit ici, l'intérieur. Ça veut dire les motifs, les émotions de notre Seigneur. Et faire fumer ici veut dire de ne pas laisser les morceaux juste dans le feu, qui ne fait pas une odeur agréable, mais de s'occuper de chaque partie pour que ces parties soient comme une odeur agréable pour Dieu. Et je me demande, est-ce que nous avons, pour ainsi dire, la capacité de rester un certain temps sur la marche, sur les paroles, sur les pensées? Est-ce que nous avons des pensées d'adoration sur les détails de la personne et de l'œuvre de Christ? Ou est-ce que nous sommes déjà prêt, sans autre mot, sans autre pensée, que le Seigneur a glorifié Dieu. Il faut s'occuper des détails de la vie de notre Seigneur pour être capable d'exprimer quelque chose. Et en même temps, de rester avec la parole de Dieu. Ce n'est pas une imagination, des spéculations sur des choses. Mais il faut toujours se limiter à ces mots, à ces paroles, à ces expressions que Dieu utilise pour la personne de notre Seigneur dans la parole. Ça, c'est une certaine difficulté d'avoir quelque chose à dire sur la personne et ses souffrances, et en même temps de rester dans les limites que la parole de Dieu nous donne. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces souffrances qui touche nos cœurs pour nous exprimer? C'est la question. Quand il est dit ici dans le verset 9, il lavera avec de l'eau l'intérieur, etc. Laver pour nous veut dire purifier, parce qu'il y a des choses impures. Pour la personne de notre Seigneur, ici, le type veut dire, ils ont utilisé ce lot pour montrer qu'il n'y avait aucune impureté. Ça veut dire que pour montrer que tout était pur, dans le tout et dans tous les détails avec le Seigneur. Ce sont quelques mots sur quelques détails. Maintenant, il faut réfléchir, pourquoi est-ce qu'il y a trois parties de ce chapitre? Pourquoi est-ce qu'il y a l'holocauste de gros bétail, l'holocauste de menu bétail et l'holocauste d'oiseaux? Et je crois que ça nous montre que l'enseignement de ce chapitre est vraiment notre adoration. Parce que si on regarde le Seigneur objectivement, ça veut dire ce que le Seigneur a fait, comme les deux premières perspectives que j'ai mentionnées sur la personne et cette œuvre de Christ dans Éphésiens 5. Tout est parfait et il n'y a pas des parties qui ne sont pas comme les autres, parfaits comme les autres. C'est tout sur le même plan parfait avec le Seigneur. Mais si nous venons pour adorer, ça peut être qu'il y a un frère, une sœur, qui n'exprime pas ouvertement, mais qui a ses pensées dans son cœur, qui a un très, très une appréciation de ce que le Seigneur a fait, qui va très profond. Et il y a d'autres qui n'ont pas encore une appréciation si profonde. Et ça, c'est montré par ces trois sacrifices différents. Il est très intéressant qu'il n'y a aucun reproche pour le troisième, les oiseaux. On trouve que pour les trois, la conclusion est toujours, c'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Ça veut dire, Dieu ne fait pas la différence dans son appréciation de ce que nous apportons. Quand même, il aurait très bizarre que moi, je suis presque 50 ans croyant, que j'apporte que des oiseaux, qui sont le plus petit offrande comme holocauste en comparaison avec le gros bétail. Et en comparaison avec cela, en contraste, si quelqu'un a juste accepté Jésus comme sauveur, disons hier ou il y a quelques semaines, ça sera bizarre quand il était capable d'apporter un gros bétail. Il faut rester un peu dans le sens bien naturel aussi dans nos adorations, dans nos expressions. Mais Dieu ne fait pas de différence. Et pour moi, c'est très important que nous ne faisons pas non plus une différence. Il est bien d'apprécier si un frère est capable d'exprimer vraiment des pensées très très profondes, profondes. Et c'est bien. Mais ça ne doit jamais être le cas qu'un frère pense je ne dois pas m'exprimer parce que j'ai seulement des pensées simples. Il faut que les frères qui savent beaucoup, qui ont une bonne appréciation de l'œuvre et de la personne de notre Seigneur, qu'ils apprécient aussi des simples expressions, phrases de notre frère. Et que ces frères qui pensent, ce qui n'est pas tout à fait le cas souvent, mais qui pensent, ils n'ont que des simples pensées sur la personne et l'œuvre de Christ, ils ne doivent jamais avoir honte de s'exprimer parce qu'ils voient un frère qui expresse pensées profondes. Non, l'adoration collective est faite par ceux qui ont des simples pensées comme avec des autres. Il ne faut pas comparer, il faut apprécier. Et j'espère bien que nous avons une atmosphère où chacun peut s'exprimer d'après sa condition, son état actuel. Certainement, Dieu aime une croissance spirituelle, particulièrement sur sa personne de son fils. Alors, comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre les trois? On peut regarder les animaux, je ne le fais pas maintenant, parce qu'on peut aussi voir les différences de description. Et je me limite à un détail dans ces trois cas. Avec l'holocauste de gros bétail, il est spécial, verset 4, le sacrificateur, ou celui qui vient avec les sacrifices, il posera sa main sur la tête de l'holocauste et elle sera agréable pour lui pour faire propitiation pour lui. Ces expressions sont mentionnées seulement dans ce premier paragraphe. Spirituellement parlant, ça veut dire seulement lui qui amène ce gros bétail met sa main sur cette tête de l'Holocauste, qui veut dire que l'odeur de ce sacrifice est donnée et appréciée ou est prise aussi est donnée aussi à celui qui apporte ce sacrifice. Avec d'autres mots, seulement celui qui met sa main sur la tête à cette conscience que l'odeur de Christ par son sacrifice est maintenant l'odeur qui est sur moi devant Dieu. Ça veut dire je suis en Christ, ou comme Paul l'exprime dans Éphésiens 1, verset 6, où il dit que Dieu nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Il nous a placés dans une position de faveur, la faveur qui est la faveur de Christ devant le Père. Ça veut dire quand Dieu nous voit et voit Christ. Quand Dieu nous voit et voit Christ, si Dieu voit Christ et voit nous. Et c'est la conscience de celui qui vient avec ce gros bétail. Et c'est... Il n'y a pas de condamnation. Tout est fait. Ça ne peut rien arriver qui est entre Dieu et moi. Je suis dans la faveur de Christ devant Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne regarde plus en soi-même, il ne regarde plus à soi, mais il a la perspective de regarder absolument sur Christ. Et pour cela, Christ est le tout pour lui. Parce qu'il ne doit plus regarder vers lui, parce que lui, ce n'est plus, c'est Christ. Il est dans l'odeur de Christ. Pour le deuxième, ces moutons et chèvres, les chèvres étaient en fait les animaux pour le sacrifice de péché. Mais ici, c'est quelqu'un qui donne ce sacrifice librement. S'il y avait un péché, il a dû apporter cela. Mais même dans le sacrifice de péché, ça veut dire dans cet domaine que le Seigneur a pris nos péchés sur lui, ça nous amène à l'adoration. Ça nous ouvre, les yeux pour la gloire de notre Seigneur. Ça nous ouvre les yeux pour la gloire de notre Seigneur. Et il est dit ici dans le verset 11, et seulement ici, « Il l'égorgera à côté de l'autel vers le nord. » Le nord était toujours le côté où l'ennemi est venu. Je crois que ça parle des souffrances extraordinaires de notre Seigneur. Comme Dieu juge l'ennemi qui est venu du nord, c'est le jugement que Dieu a mis sur le Seigneur. Et celui qui apporte ses chèvres, ses moutons, il a une conscience sur l'immensité des souffrances de notre Seigneur. Troisièmement, verset 16, avec des oiseaux. C'est un peu spécial. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'au début, verset 3, Dieu parle des gros bétails. Non, verset 2, il parle de bétail, du gros et du menu bétail. Il ne parle pas au début des oiseaux. Et quand même, il accepte si c'est que des oiseaux. C'est différent avec le sacrifice de prospérité. Avec c'est le type de la table du Seigneur, en fait, de la scène. Avec cela, Dieu n'a pas accepté les oiseaux. Mais pour l'adoration, Dieu prend le moindre que nous pouvons apporter. Il l'accepte comme adoration. Et ici, verset 16, il ôtera son gésier avec son ordure et les jettera à côté de l'autel. Certainement, dans l'œuvre et la personne de notre Seigneur, il n'y a rien qui doit être jeté, rien du tout. Ça veut dire que ces expressions doivent avoir à faire avec nous. Et je propose deux côtés. Premièrement, ça peut être dans nos expressions qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec les pensées de Dieu. N'est-ce pas? J'en suis sûr que chacun de nous qui s'est exprimé dans prières de ce culte, après il a dit Amen, il a pensé une fois ou plusieurs fois, ouf, ce n'était pas juste ce que j'ai exprimé. On peut utiliser meilleures paroles pour cela. Et Dieu dit, je ne m'occupe pas de cela. Je mets ces choses à côté. Et j'espère que nous sommes capables de faire la même chose. On peut s'occuper beaucoup sur les fausses expressions de mon frère, de mes frères. Ou je peux dire, je l'ai mis à côté de l'autel et je m'occupe des choses qui étaient pour le bien, pour l'odeur de Dieu. Quelle est mon attitude envers mon frère? Certainement, si quelqu'un répète des expressions qui ne sont pas en accord avec la parole, il faut parler ensemble avec humilité. Mais est-ce que je me concentre sur des fausses expressions? Combien de fois moi-même je m'exprimais faussement, aussi dans le culte. Deuxième perspective sur cela, je peux venir, pour ainsi dire, impur. Ça veut dire, c'est possible, combien de fois c'était le cas, où on n'a pas jugé soi-même, où on est venu avec des péchés. Je ne parle pas d'un état de péché comme 1 Corinthiens 5, juste des péchés que je n'ai pas confessés. Est-ce que Dieu peut accepter cela et mis à côté cela? Certainement, si je vis dans une certaine laxité, c'est pas juste, c'est pas bien. Il faut comprendre que c'est une place de sainteté. Mais Dieu ne s'occupe pas, concentre sur mes péchés et concentre sur la personne de notre Seigneur, de son Fils bien-aimé et de ce qu'il a fait. Quelques pensées sur l'Holocauste. Nous avons une responsabilité envers l'Holocauste. Il est remarquable, et je finis avec cela dans le chapitre 6, qu'il y a une commande à Aaron et à ses fils, verset 2, probablement. Et c'est l'Holocauste, et sera sur le foyer, sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu de l'autel brûlera sur lui. Et le sacrificateur revêtira à sa tunique de lin. Juste le verset 2. Il sera sur le foyer, sur l'autel, toute la nuit. Qui était responsable pour cela? Les sacrificateurs. La nuit, c'est aujourd'hui. Et la chrétienté, plus ou moins, ne sait rien encore sur l'Holocauste du Seigneur. La plupart connaît que le Seigneur était mort pour eux, mais qui est encore conscient de ce que l'Holocauste veut dire, de ce que le Seigneur a fait pour la gloire de Dieu? Et Dieu fait responsable, pour ainsi dire, les sacrificateurs de continuer, de laisser ce sacrifice continuellement dans la nuit sur l'autel. Ça peut être seulement quelqu'un qui est pratiquement sacrificateur et qui par cela est conscient de ce que l'Holocauste veut vraiment dire. Est-ce que nous sommes ceux qui laissent continuellement brûler, fumer ce Holocauste sur l'autel, que ça se voit dans la nuit et que ça, il y a encore un témoignage sur ce que l'Holocauste veut dire? Pour Dieu, c'était le meilleur sacrifice, le premier duquel il parle. Et je me demande si nous avons cet amour pour le Seigneur, cet amour pour Dieu notre Père, de continuer avec ses pensées, de participer à ce témoignage de ce que le Seigneur a vraiment accompli sur la croix, pas seulement pour nous, mais pour Dieu, comme holocauste, comme bonne odeur, qui sera éternellement devant son Père, et nous, inclus dans cette odeur en Christ.